J'aime ça débuter, je parle surtout pour les visiteurs, là. Les gens d'église sont habitués, mais j'aime ça débuter mes prédications avec une petite histoire souvent qui a rapport avec ce que je vais dire, alors je vais débuter comme ceci. Un jour, le diable et l'un de ses démons marchaient ensemble et ils virent un homme devant eux qui ramassait un objet beau et brillant par terre. « Qu'est-ce que cet homme a trouvé? » demanda le démon. Le diable répondit, « Il a trouvé un fragment de la vérité. » « Mais cela ne te dérange-t-il pas qu'il ait trouvé un fragment de vérité? » demanda le démon. « Non, dit le diable, car je veux faire en sorte qu'il en fasse une religion. » Si vous pouvez envoyer la deuxième slide, je vais demander, on a perdu la manette pour le PowerPoint, donc merci aux gens de la technique. Donc, nous sommes dans une série sur l'Évangile de Jean que Pasteur Joël a démarré il y a 3 semaines. Et dans cette série-là, on regarde la rencontre que différentes personnes ont faite avec Jésus et comment cela a impacté leur vie. On a vu ce matin les gens qui ont été baptisés ici. Ils nous ont raconté une partie de leur histoire et comment ils ont été impactés par Jésus. La rencontre avec le Seigneur ne laisse personne indifférent. Certains viennent à lui, d'autres le rejettent, mais il ne laisse personne indifférent. Et c'était beau de voir nos 4 baptisés ce matin raconter comment et pourquoi ils ont, dans les eaux du baptême, ils se sont identifiés à Jésus, parce qu'ils ont été impactés par lui. Et ce matin, dans les Écritures, on va voir un homme du nom de Nicodème, un homme religieux, qui croyait détenir la vérité, mais à qui Jésus a fait une déclaration pour le moins renversante. Tu peux passer à la prochaine slide. Alors, on va lire l'Évangile de Jean au chapitre 3, les 3 premiers versets. La parole de Dieu se lit comme ceci. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, Nicodème était un chef religieux connu et respecté par sa nation. Et s'il est venu voir Jésus de nuit, c'est certainement parce qu'il craignait les autres, parce que Jésus n'était pas accepté par les autorités religieuses. Il était rejeté, il était critiqué, et Nicodème ne voulait pas avoir de trouble avec sa gang, comme on dit. Alors, il est venu de nuit parce qu'il tenait à rencontrer le Seigneur. Nicodème reconnaissait, il l'a dit lui-même, que Jésus était un envoyé de Dieu à cause des miracles qu'il faisait. C'est ce que le texte nous dit. Mais Nicodème ne semblait pas croire en Jésus pour qui il est vraiment. On va voir l'entretien qui s'est produit avec lui. L'entretien ne dit pas si Nicodème, au final, s'est converti. Le texte ne le dit pas immédiatement, mais sa rencontre avec le Seigneur a quand même eu un impact. Et c'est de ça que je veux parler. Et j'aimerais qu'on applique ça à nous-mêmes. Nicodème était un érudit. Il aurait pu aborder le Seigneur avec des questions de haute théologie. Enfin trancher sur les débats qu'il y avait entre les rabbins, dire « mais c'est pas ça ». Nicodème semblait intrigué par les miracles que Jésus faisait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête, mais c'est ça qui semblait l'intriguer. Alors, Nicodème, c'était un érudit, il avait étudié et enseigné la religion juive toute sa vie, et il aurait dû reconnaître que Jésus était le Messie attendu. Le sauveur d'Israël que les prophètes avaient annoncé depuis des siècles. Mais vous savez, c'est ça que ça fait les religions. Elles amoindrissent entièrement ou partiellement la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, ce qu'il a accompli à la croix, pour mettre de l'avant des choses secondaires. Quoi qu'il en soit, Nicodème était intrigué par Jésus. Alors, il va le voir et Il veut lui poser des questions. Et c'est probablement, comme je disais, à cause des miracles, puisqu'il dit au verset 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais Jésus n'a pas envie de parler avec Nicodème de miracles ou de choses secondaires qui n'entraînent souvent qu'une foi superficielle. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui sont venus vers le Seigneur, on le voit ça dans les évangiles, et qui lui posent des questions, mais pas pour vraiment le connaître lui, savoir qui il est, mais parce qu'ils sont avides, assoiffés de sensationnel. « Seigneur, fais-nous voir un miracle. Seigneur, donne-nous à manger. » « Hey Seigneur, ma fille est malade, guéris-la. » Le Seigneur n'a pas le goût de parler de ça avec Nicodème. Il va plutôt droit au but en abordant la question de la transformation du cœur, c'est-à-dire de la vraie conversion, qui ne se produit qu'au moyen de la nouvelle naissance et non de la religion. Alors le Seigneur lui répond au verset 3, « en vérité, je te le dis. » Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème aurait pu dire, non, mais Seigneur, c'est pas de ça que je veux te parler. C'est des miracles que tu fais. Parce que personne ne peut faire des miracles si Dieu est avec lui. Nicodème, j'ai quelque chose de plus important que ça de dire. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème était un homme très connaissant de sa religion. Jésus l'appelle le docteur d'Israël. Et quand on parle de docteur, on ne parle pas de docteur en médecine ici, mais d'un érudit, celui qui connaît très bien la loi de Moïse, donc la religion. Et Nicodème, en réalité, ne possédait, même malgré toute sa grande érudition, il ne possédait qu'une partie de la vérité et qui faisait de lui un homme très religieux. Nicodème croyait sans aucun doute pouvoir entrer dans le royaume de Dieu grâce à sa religion, à ses œuvres et à sa piété. Mais sa rencontre avec Jésus l'a confronté à son ignorance de la vérité. Et sa foi religieuse a été ébranlée. Prochaine slide. On va lire les versets 4 à 8. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. » Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème était ébranlé et confus. C'est un homme intelligent, là. Alors, il sait bien que si Jésus lui parle d'une renaissance, de naître de nouveau, il sait bien que Jésus ne lui parle pas vraiment d'une renaissance physique. Mais Nicodème répond à Jésus en restant dans la même analogie que Jésus, parce qu'il veut comprendre ce que le Seigneur veut lui dire. Un homme, dit Nicodème, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus lui répond, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus ici parle à Nicodème d'un nouveau départ. Mais pas d'un départ charnel ou religieux. Hé, Nicodème, change de religion, tu n'as pas la bonne. Hein, Nicodème, recommence, parce que tes œuvres ne sont pas assez belles, ne sont pas assez bonnes, ne sont pas assez en grande quantité. C'est pas ça. Jésus ne parle pas de ça. Jésus parle de quelque chose de spirituel. Jésus est en train de dire à Nicodème qu'il doit retourner à la case départ et recommencer, mais de façon spirituelle. Toute la consécration religieuse de Nicodème, ses bonnes actions et ses meilleures intentions doivent être laissées derrière. Parce que l'entrée dans le royaume de Dieu est impossible par des efforts humains. Dans un autre texte des Évangiles, en Luc 18, Il y a un jeune homme qui va voir le Seigneur. Tu peux envoyer la prochaine slide. Et il lui demande, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Moi, je pense que ça, c'est une question que tout le monde devrait se poser. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Là, il s'en est suivi une discussion, on ne la lira pas. Et ensuite, il est écrit, un peu plus loin, ceux qui l'écoutèrent dirent, « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Donc, pour revenir à Nicodème, Nicodème doit retourner à la case départ et repartir à zéro, parce qu'il avait tout faux. Pour voir le royaume de Dieu, il doit naître d'eau et d'esprit. Bon, il y a plusieurs interprétations possibles là, à ce que veut dire naître d'eau et d'esprit. Mais dans les Écritures, l'eau et l'esprit symbolisent souvent la purification et le renouveau spirituel. Alors moi, je crois que Jésus voulait ici ébranler la foi de Nicodème en lui disant que ce n'est pas sa religiosité qui ouvre les portes du ciel, mais une purification engendrée par l'Esprit de Dieu. Jésus lui dit au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, si la nature humaine engendre ce qui est charnel, eh bien, ce qui est spirituel doit être engendré par l'Esprit de Dieu, parce que la nouvelle naissance est entièrement et uniquement l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus utilise ici l'analogie du vin pour la faire comprendre à Nicodème. Jésus utilisait souvent la nature dans ses paraboles ou dans ses explications pour faire comprendre des choses. Et encore une fois, ici, il se sert du vin. Il dit au verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Alors, tout comme le vent, la nouvelle naissance n'est pas soumise au contrôle de l'homme, c'est-à-dire à sa religiosité, à ses efforts, à ses bonnes intentions. Il y a un vieux dicton, peut-être vous l'avez déjà entendu, qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, mais moi, je suis une bonne personne. Je fais des bonnes actions, puis je suis bien intentionné dans ce que je fais, puis Dieu le sait, là. Malheureusement, la nouvelle naissance n'est pas soumise aux efforts humains, ni aux meilleures intentions. La nouvelle naissance se produit par miracle. C'est un miracle que Dieu accomplit dans la vie des gens par l'action du Saint-Esprit. Et la nouvelle naissance est invisible en elle-même. On ne voit pas la nouvelle naissance se produire dans la personne, comme si il venait bleu, puis tout éclatant tout d'un coup, là. Bang! Ah, t'es né de nouveau, toi! C'est pas comme ça que ça se passe. Il est souvent invisible. Par contre, on en voit les effets. On en voit les fruits. L'Esprit travaille de l'intérieur. Mais les fruits deviennent visibles à l'extérieur pour la personne qui est véritablement née de nouveau. Quand quelqu'un est sauvé, sa vie change. Parce que le Saint-Esprit qui habite maintenant en lui provoque des changements pour la gloire de Dieu. Prochaine slide, s'il vous plaît. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la parole de Dieu nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, et ça c'est conditionnel, ça commence par un « si ».« Si quelqu'un est en Christ, donc s'il est né de nouveau, il est une nouvelle création. » Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand je me suis converti quelque temps après, je m'en vais chez ma mère, et là, je veux manger avec elle, et j'étais tout zélé, tout bon, je parlais du Seigneur, puis ma vie avait changé, j'avais abandonné mon ancienne vie, j'étais dans le péché, puis je faisais des choses qui ne sont pas très reluisantes, et ma vie avait beaucoup changé. Et là, on était en train de faire la vaisselle. Et ma mère s'accote sur le comptoir, puis elle me dit, « Tony, j'aimerais ça que tu me dises de quoi? T'as donc bien changé. T'es rentré dans quoi exactement? » J'ai dit, mais je suis rentré dans rien, c'est Jésus qui m'est rentré dedans. C'est ça qui se passe par la nouvelle naissance. On voit ses effets dans la vie des gens. Puis ça ne se fait pas tout d'un coup, là, puis ça se fait graduellement. Mais, vous savez, on peut dire qu'on est chrétien, on peut dire qu'on connaît le Seigneur, puis vivre une vie tout croche. Mais ce que les Écritures disent ici, là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si quelqu'un prétend qu'il est chrétien et que sa vie n'a pas changé, et je ne parle pas par les œuvres religieuses, mais par l'action de l'Esprit, c'est qu'il n'est pas sauvé. Parce que, une foi qui n'a pas changé ton âme, une foi qui n'a pas changé ta vie, pardon, n'a pas sauvé ton âme. Je répète, une foi qui n'a pas changé ta vie n'a pas sauvé ton âme. Et ce n'est pas quelque chose d'humain, ce n'est pas la nouvelle naissance, l'action du Saint-Esprit, on n'a aucun contrôle là-dessus, comme le vent. On n'a aucun contrôle sur le vent. Il souffle où il veut, puis il s'en va ce qu'il va. Mais on en a des effets, par exemple. Quand les papiers bardeaux de la couverture partent, on sait qu'ils ventent. Hier, on était en cours chez nous, puis on avait la visite, puis il y a une chaise, à un moment donné, qui avait, paf, la chaise a revolé sa balançoire, les verres ont volé à terre, puis on ne le voyait pas, le vent, mais on a vu les effets. Et c'est ça que la nouvelle naissance produit dans la vie des gens. Parfois, ça prend plus de temps, parfois c'est plus fracassant que d'autres. Dieu est au rythme de chacun et on a tous un vécu différent. Mais une chose qui est sûre, c'est que la rencontre avec le Seigneur Jésus ne laisse personne indifférent. Personne. Prochaine slide. Versets 9 et 10. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répond, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Nicodème, tu es bourré de diplômes. Tu as des doctorats, tu as enseigné, tu enseignes les jeunes pasteurs, les jeunes rabbins, je veux dire. Puis que tu es en train de me dire que toi, là, qui as étudié l'Ancien Testament toute ta vie, qui l'a enseigné, tu es en train de me dire que tu ne sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas comment est-ce que Nicodème se sentait, mais il devait être confus. Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus lui expliquait. Pourtant, les prophètes, entre autres Ézéchiel et Joël, avaient prophétisé sur le Saint-Esprit, mais Nicodème demeure incrédule. Alors Jésus lui reproche. Il lui reproche à lui, mais aussi à toute la nation juive, leur incrédulité. C'est pour ça qu'il dit « vous ». Donc, versets 11 et 12. « en vérité, je te le dis, nous, c'est-à-dire probablement Jésus, les prophètes et les disciples, là, ceux qui ont été témoins, Jésus est témoin des choses célestes, mais d'autres à côté de lui ont été témoins de l'action de Dieu dans la vie des gens et du témoignage de Jésus. Donc, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous, ça, Nicodème, les chefs religieux et la nation juive en général. Mais si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous ai parlé des choses, quand je vous parlerai des choses célestes? Vous savez, comme Nicodème, aujourd'hui encore, beaucoup de gens préfèrent rester attachés à leur religion, à leur conception de Dieu, à leur conception du salut, ou à toutes sortes de choses qui sont charnelles, plutôt que de venir à Christ et recevoir la vérité par la foi. Prochaine slide. Au verset 13, Jésus continue et dit, « Et personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus est le seul qui peut vraiment parler des choses célestes parce qu'il vient du ciel. Il y a un texte magnifique dans l'Épître aux Philippiens, je ne vous le lirai pas, je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça nous dit qu'il a délaissé la gloire qu'il avait auprès du Père pour venir dans le monde. Le ciel, Jésus le connaît, parce qu'il vient de là. puis il est retourné là. Donc, il peut parler des choses célestes. Et c'est le seul qui peut vraiment le faire. Il y a plein de vidéos là, que je vois passer là, sur Internet, dire « Je suis allé au ciel » ou « Je suis allé en enfer » puis « Je suis revenu » puis « J'ai un message ». Tout ça, ça ne code pas avec la Bible. Là. Il y a un homme dans les Écritures qui dit à Abraham, qui était dans la conception juive de l'époque, le paradis, il s'appelait le Saint d'Abraham. Donc, il dit « Permets-moi là, de retourner dans la maison pour dire à mes frères de ne pas mal agir comme j'ai fait. » Puis là, il se fait dire « Non, ils ont la loi et les prophètes. Même si tu retournes, ils ne croiront pas. » Alors, si quelqu'un vous dit qu'il est revenu d'entre les morts parce qu'il y a un message, c'est contraire à ce que la Bible dit. Si vous voulez savoir la vérité, là, ouvrez la parole de Dieu et lisez-la. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que nous dit Romains 10, 17. Et ça, c'est accessible à tout le monde. S'il est venu, Jésus, c'est pour nous enseigner la vérité, pour accomplir notre salut et nous montrer le chemin pour aller au ciel. Le chemin pour aller au ciel, c'est Jésus, puis il n'y en a pas d'autre. D'ailleurs, prochaine slide, Jésus lui-même va dire, quelques chapitres plus loin, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il ne dit pas « Je suis un chemin, une vérité, une vie. » Certains vont venir au Père par moi, puis d'autres par une autre place. C'est pas ça qu'il dit, le Seigneur. Il est exclusif. Et ça, parfois, les chrétiens, on se le fait reprocher. « Oh, vous autres, on sait bien, vous êtes exclusifs. » Oui, absolument. Pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce que c'est la parole de Dieu qu'il dit qu'il n'y a pas d'autre chemin qui mène au ciel que Jésus. Alors, s'il n'y en a pas d'autre, laissons tomber nos religions. Laissons tomber toutes nos conceptions de notre entrée au ciel. Parce que Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous êtes en quête du salut de votre âme, c'est à Jésus que vous devez aller. C'est lui que vous devez rencontrer. C'est spécial tantôt quand Brandon disait que Jésus s'est manifesté à lui en rêve. Vous savez, quand on veut rencontrer le Seigneur, là, on peut lui demander de tout notre cœur. Puis d'une manière, je ne dis pas qu'il va se révéler à vous en rêve, il l'a fait avec Brandon, il ne fait pas ça avec tout le monde, mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur va le faire. Il va se révéler à vous. Le zèle religieux et les pratiques pieuses ne conduisent pas au ciel. Le seul chemin qui mène au paradis, c'est Jésus, puis il n'y en a pas d'autre. Et dans les versets suivants, le Seigneur nous dit que c'est par la foi seulement en lui qu'on peut être sauvé. Versets 14 et 15. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Le Seigneur ici ramène à Nicodème une histoire que Nicodème connaissait bien, très certainement. C'est qu'à l'époque de Moïse, dans le livre des Nombres, au chapitre 21, le peuple d'Israël avait péché contre Dieu, et là, l'Éternel avait envoyé des serpents brûlants, probablement des serpents venimeux, et beaucoup dans le peuple ont été mordus, et beaucoup sont morts. Et on peut lire, « L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Jésus relate cette histoire-là pour parler de lui. L'idée, ce n'est pas de comparer Jésus à un serpent. C'est une histoire de foi. Lorsque Nicodème est allé rencontrer Jésus, sa foi a été ébranlée. Et j'aimerais vous demander ce matin, est-ce que vous avez déjà fait éprouver votre foi face à la parole de Dieu pour savoir si vous êtes dans la vérité? Vous savez, on peut croire être dans la vérité, on peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Est-ce que vous avez déjà eu l'humilité, le courage d'ouvrir la parole de Dieu et de vérifier dans les Écritures si ce que vous croyez savoir est exact? Est-ce que vous avez l'humilité et le courage de confronter votre foi, quelle qu'elle soit, face à la parole de Dieu? Prochaine slide, s'il vous plaît. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, la parole de Dieu nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en nous, en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés, c'est-à-dire de faux chrétiens. » Vous savez, on peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Alors, c'est important d'être sûr, d'être dans la vérité, parce que un jour, Jésus a dit, prochaine slide, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seulement ceux qui auront vécu la nouvelle naissance entreront dans le royaume des cieux. Seulement ceux qui auront connu une conversion, non pas religieuse, mais spirituelle, par l'action de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est la job du Saint-Esprit de venir, de convaincre les gens de péché, de justice, de repentance. Toi qui m'entends ce matin, es-tu né de nouveau? La vérité, c'est que la religion ne donne jamais à la croix la place que Dieu lui a faite. La religion ne donne jamais à la croix la place que Dieu lui a faite. Parce que c'est à la croix que le salut a été entièrement accompli par les hommes. Un peu avant de mourir, Jésus a dit cette parole extraordinaire. Tout est accompli. Si tout est accompli, que nous reste-t-il à faire? Parce que les religions vont dire, fais ceci, ne fais pas cela. Va ici, va pas là. Pense comme ceci, pense pas comme ça. Accomplis ceci, accomplis ça. Tout ça. C'est des ci puis des ça. Alors, ça nous coupe les jambes. Mais la croix où Christ a été mis, la croix où Christ a pris nos péchés sur lui, c'est ça la vérité. La place que Dieu donne à la croix est infiniment supérieure à la place que les religions donnent à la croix. Parce que dans les religions, on doit faire un peu pour mériter. Ça veut dire que Jésus, ce qu'il a fait à la croix, ce n'est pas suffisant. Mais le prix qu'il a payé, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, qui a été torturé, humilié, a subi tout ce qu'on avait, tout ce qui était possible de faire devant Dieu pour que nous soyons sauvés, ce que nous, on n'arrivera jamais à faire. Alors les religions vont dire, oui, oui, Jésus est mort à la croix pour nos péchés, mais il faut quand même que... La religion ne donne jamais à la croix la place que Dieu lui donne. Et ça, pour le comprendre, il faut aller à la croix. Il faut regarder le Sauveur en croix. Où il est sur la croix, les bras comme ça, puis il dit, regarde-moi. Peut-être que là, tu ne comprends pas tout ce que je fais, mais crois-moi, comme un enfant, ce que je fais, c'est parce que je t'aime gros comme ça. Je donne ma vie pour toi. Vas-tu croire en moi? Le salut, c'est une question de foi, pas d'œuvre et d'accomplissement humain. C'est juste par la croix de Christ qu'on peut être sauvé et par rien d'autre. Parce que la religion prône le salut par les œuvres, mais la Bible, elle, affirme que le salut est par la foi en Jésus-Christ seulement, par sa mort et sa résurrection. Ainsi, Jésus va dire à Nicodème, prochaine slide, dans les versets 16 à 18, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pourquoi on parle de jugement? Pourquoi on parle de jugement ici? Car Dieu a tant aimé le monde. Ah, l'amour de Dieu, c'est donc bien beau. Hein? Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Et il l'a prouvé. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le moyen de salut. C'est par Jésus qu'on peut être sauvé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas écrit là, Dieu a envoyé Jésus sur la croix pour en faire un petit bout, puis les religions feront le reste. Non, non. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un paratonnerre? Je ne sais pas s'il y en a encore sur les maisons aujourd'hui, là, mais peut-être différentes formes, on en voit moins qu'avant. Mais le paratonnerre est une tige de métal. Quand la foudre, lors des orages, tombe, pour éviter qu'elle fasse sauter la maison, bien, ça s'en va dans une tige de fer qui est grandée au sol, puis ça descend. Donc, la foudre est dérivée vers la terre. En quelque sorte, Jésus a été comme un paratonnerre sur la croix, parce qu'il a détourné sur lui la colère de Dieu que nous méritions à cause de nos péchés. Nos péchés nous séparent de Dieu. Et nos religions ne nous approchent pas de Dieu. Christ, sur la croix, a tout fait. Pas besoin de religion. Parce qu'il a tout accompli à notre place. Et la colère de Dieu, on l'a méritée à cause de nos péchés. Mais Christ, sur la croix, s'est donné, lui qui était sans péché. Jésus était sans péché parce que s'il avait fait un seul péché, il serait mort pour le sien, pas pour les nôtres. Alors Jésus a pris nos péchés sur lui à la croix et il a subi la colère de Dieu à notre place. Parce qu'il fallait que le péché soit puni de Dieu. Il fallait que la colère de Dieu soit assouvie. Dieu est amour. Il n'est pas colérique. Oui, Dieu est amour. Mais quand on ouvre les Écritures, on voit que Dieu aussi se met en colère. En colère à cause du péché. Parce que le péché, c'est dégueulasse. Le péché, ça offense la parfaite sainteté de Dieu. Et ça, ça doit être réparé. Mais on ne peut pas par nous-mêmes. Jésus le peut. Alors Jésus, sur la croix, il a tant aimé le monde qu'il s'est donné et il faut croire en lui. Pas une religion, mais croire. Placer sa confiance de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force en lui, en ce qu'il a fait. Et il faut être conscient que on ne peut rien faire, on ne pourra jamais rien faire pour mériter d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus l'a fait à notre place. C'est-tu pas merveilleux? Puis le Seigneur nous dit, écoute, crois seulement en moi. Crois seulement. Pas croire d'une façon théorique. Oh, ouais, moi, je sais ça, là, que Jésus il est mort pour nos péchés. Ben oui, tout le monde sait ça. On est en 2026 après Jésus-Christ. Donc, on sait qu'il est venu, qu'il a fait quelque chose. On ne parle pas d'une connaissance théorique. Comme Jésus disait à Nicodème, « Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu recommences à zéro. Mets de côté ce que tu penses savoir, ça ne compte pas. Pas pour entrer dans le royaume. » La nouvelle naissance, elle est spirituelle. Et tu dois naître de nouveau. Si ça se fait par la foi en Jésus-Christ. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Nos péchés doivent être punis devant Dieu. Mais Jésus a pris la place de tous ceux qui croient en lui. En faites-vous partie? Si vous n'en faites pas partie, j'aimerais vous dire ce matin, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. On vient de voir la rencontre avec Nicodème que Jésus a faite, et les baptisés de ce matin nous ont aussi raconté leur propre rencontre avec Jésus. Dado Sarah a dit que sa vie était plate, mais elle devait quand même naître de nouveau. Anaël avait un grand vide intérieur. Elle devait naître de nouveau. Brandon a fait une recherche honnête de la vérité. Alors, il a rencontré Jésus et il est né de nouveau. Zora allait bien, mais elle avait un désir de s'approcher de Dieu. Elle devait naître de nouveau. Maintenant, c'est toi que Jésus appelle. Il veut te rencontrer et te sauver. Il te dit ce matin par sa parole dans la Bible, « Tu dois naître de nouveau. » Répondras-tu à son appel? Ne te laisse pas leurrer par un éclat de vérité. Un éclat de vérité présenté par les religions qui, au final, semble peut-être bien beau puis bien brillant, mais ne te procurera pas le salut. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, ça ne prend pas une partie de la vérité, ça prend toute la vérité. Et cette vérité, c'est que tu dois naître de nouveau. Par l'Esprit de Dieu, par l'action de Dieu, avec repentance et foi. Jésus t'appelle ce matin. Vas-tu répondre à son invitation? Rencontre-le. Qui que tu sois, Jésus te dit ce matin, tu dois naître de nouveau. J'aimerais vous inviter à pencher vos têtes. Peut-être que ton cœur brûle en dedans quand je te parle de ça. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Ça vient de l'Esprit de Dieu qui travaille présentement en toi parce qu'il t'appelle à venir à Jésus. Et qui veut te dire, tu dois naître de nouveau. Tu dois recommencer, tout repartir à zéro. J'aimerais faire une prière et vous inviter peut-être à me suivre. Écoutez bien, ce n'est pas la prière qui va vous sauver. Je veux dire, pas les mots que je vais dire. La prière que je vais faire n'est qu'un guide. Ce qui sauve, c'est la foi et la repentance. Alors, je vais dire des mots simplement pour vous aider. Peut-être que ça pourra vous aider à aller à Jésus et à le laisser vous sauver. L'important, c'est la repentance. Dans la Bible, il est écrit que Dieu annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Et la Bible dit aussi que c'est par la foi uniquement en Christ qu'on peut être sauvé. Repentance et foi, ça va ensemble. Alors, prions et faites cette démarche sincère devant Jésus. Seigneur Jésus, viens à ma rencontre ce matin. Seigneur Jésus, là où je suis dans ma vie, je ne mérite pas que tu me sauves. Je fais des choses qui ne sont pas belles. Des choses que je vais regretter peut-être longtemps ou toute ma vie. Ou peut-être que j'ai une vie plate. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, je veux faire cette démarche honnête de te rencontrer. Je t'invite à venir à moi. Et Seigneur Jésus, je crois que sur la croix, tu as porté mes péchés. Et je crois que si tu l'as fait, c'est parce que j'étais incapable d'en payer la dette moi-même. Et Seigneur, je te demande pardon. Je dépose ma vie à tes pieds, au pied de la croix. Seigneur Jésus, couvre-moi de ta justice. Donne-moi une vie nouvelle. Seigneur Jésus, je crois en toi. Fais-moi naître de nouveau. Je t'en supplie que ton esprit vienne habiter en moi et fasse de moi une nouvelle créature qui va vivre pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir accompli ce qui m'était impossible. Fais de moi ton enfant ce matin. Je te le demande, tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Je vous invite à vous lever. Peut-être fermer les yeux. Est-ce que quelqu'un aurait le courage ce matin? Gardons nos yeux fermés. Est-ce que quelqu'un aurait le courage de ce matin de lever la main afin que je prie pour vous, pour me dire que vous avez fait ce pas de foi? Que vous avez invité Jésus à venir à votre rencontre? Que vous êtes allé à la rencontre de Jésus? Est-ce que quelqu'un a fait ce pas de foi ce matin? Manifestez-vous. Levez la main. Soyez pas gênés, je veux prier. Oui. Oui, je vais prier pour toi, madame. Est-ce que d'autres mains sont là? D'autres sont timides, peut-être. Ah, Seigneur Jésus, pour les gens qui ont levé la main et pour les autres qui n'ont peut-être pas osé ce matin le faire, mais qui ils ont senti cet appel, on veut te dire merci. Conduis-les, Seigneur, dans une nouvelle vie avec toi, un nouveau départ. Et pour ceux qui n'ont pas osé le faire, convainc-les qu'ils doivent naître de nouveau, Seigneur, avant qu'il soit trop tard. Et on veut te remercier pour ton amour, parce que sur la croix, tu as fait ce qui nous était impossible. Et merci pour ces quatre personnes qui se sont fait baptiser ce matin, qui ont témoigné publiquement de leur rencontre avec toi. Vous pouvez ouvrir les yeux et vous rasseoir. Bien, restez debout, je ne sais pas s'il y a un chant de préparer. Et juste avant, j'aimerais vous dire que dans les prochains mois, il va y avoir d'autres baptêmes. Alors, si quelqu'un d'entre vous aimerait passer par les eaux du baptême, venez voir Pasteur Yvan. Il est à l'arrière. On vous le présentera si vous n'avez pas c'est qui. Et Pasteur Yvan va vous guider là-dedans. Et sur ce, je vous laisse là-dessus en vous disant une chose. Tu dois naître de nouveau. Amen.